Hello, salut, comment ça va?
Comment vas-tu bien la planète? Le podcast qui prend la température du monde. Depuis 2020, le monde connaît une pandémie nous invitant avec insistance à penser le monde d'après. Et si ce monde d'après était déjà là, au travers d'hommes, de femmes, humanitaires, missionnaires ou expatriés, qui chaque jour, aux quatre coins de la planète, vivent et s'engagent pour rendre notre monde plus soutenable. Dans chaque épisode, nous aurons l'occasion de partir à la rencontre d'une personnalité, d'un pays, d'une culture, d'un regard, d'une action en faveur des 17 objectifs du développement durable de l'Agenda 2030. Dans ce temps pandémique si singulier qui s'inscrit déjà dans les livres d'histoire, nous vous invitons à prendre la température du monde et à devenir acteur du changement. Je suis Patrick Longchamp, journaliste. Bienvenue dans Comment vas-tu bien la planète ?
Hello, salut.
Saison 3, épisode 2. Jeunes, territoire et ODD 17, comment le monde académique peut impacter le faire alliance ?
Hello, salut. Comment ça va ?
Voilà, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment vas-tu bien la planète ? Après avoir évoqué la place des territoires et de la coopération entre les acteurs sur un même territoire, on va essayer d'évoquer la question de la place de l'académique au cœur même de cette coopération territoriale. Et pour évoquer cette question-là, j'ai le plaisir de recevoir deux invités qui vont faire écho à l'invité central de cette émission, puisque nous retrouverons d'ici quelques minutes Laurent Lély, qui est le directeur de la chaire Interaction d'Agro Paris Tech à Clermont-Ferrand et qui fait un travail de fond d'action, de projet recherche-action, comme on dit, sur le territoire de Clermont-Ferrand. On évoquera justement avec lui cette nécessité de travailler finalement le terrain au cœur même, même pour le monde académique. Et pour nous accompagner, pour avoir cet effet miroir de cette action menée par la chaire Interaction sur Clermont-Ferrand, bien j'ai le plaisir d'avoir deux invitées féminines que je vous présente. Tout d'abord, Isabelle Normand, vous êtes directrice du Hub Innovation à Centrale Lille Institut. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Et à côté de vous, j'ai plaisir d'accueillir Diane de Maréchal. Vous êtes directrice de projet territoire à la Caisse des dépôts et consignations, qui a un institut de recherche au sein même de la direction de la communication. Très rapidement, Diane, pour nos auditeurs, rappelez un petit peu la Caisse des dépôts, parce que quand on parle Caisse des dépôts, on a plutôt l'impression d'avoir un organisme central où en fait on va déposer l'argent de l'achat immobilier de sa maison que les notaires utilisent, ou éventuellement, mais on voit mal comment la Caisse des dépôts joue un rôle sur les territoires.
Ouais, alors c'est ça, mais pas que son rôle, il est principalement effectivement sur les territoires. Donc la Caisse des dépôts, en fait, c'est un grand pôle financier public. On a toute une série de champs d'action qui sont en fait de financer un certain nombre de projets de territoire en mobilisant l'épargne du citoyen, mais aussi nos propres fonds, puisque dans le cadre de notre activité concurrentielle, on a des moyens qui nous permettent d'agir sur plusieurs champs d'action, le logement social, le développement des territoires. Hein, donc on fait du conseil, du financement de projets auprès des collectivités notamment. Vous connaissez peut-être Action Cœur de Ville, programme Petite Ville de Demain, etc. La transformation écologique, on a comme ambition d'être la banque du climat. Et puis aussi le financement des entreprises avec BPI France, qui est une filiale de la Caisse des dépôts. Mais aussi ça. L'accompagnement de vie des Français, puisqu'on soutient un nombre important en tout cas de dispositifs de financement de retraite, mais aussi des dispositifs comme mon compte et formation puis... et mon parcours handicap.
On va évoquer la question de la place de l'académique. Donc on le comprend bien, qui dit projet de recherche dit projet académique. Quel lien vous faites ? On va entendre Laurent Lély d'ici quelques instants nous présenter un petit peu le travail qu'il réalise avec sa chaire Interaction à Clermont-Ferrand et puis bien au-delà, comment justement Agro Paris Tech, de manière plus large, peut aussi impacter un territoire. Comment est-ce que la Caisse des dépôts se positionne sur cette dimension académique, vous Diane, en tant que directrice de projet territoire ?
Alors, je voudrais vous évoquer ça en fait à travers l'illustration de plusieurs projets qu'on soutient. Je pense que ce sera plus clair, mais je pense que je suis convaincue moi que la recherche, elle contribue vraiment aux transformations des territoires. Alors, je vais vous prendre 5 exemples, mais ils vont pas être très longs. Un premier exemple, je pense que la La première contribution de la recherche, c'est de faire prendre conscience des enjeux et de capter des signaux faibles. Par exemple, en ce moment, on copilote une recherche sur la démarche One Health. One Health, c'est la santé globale. Et en fait, l'idée, c'est d'imaginer à quoi pourrait ressembler un monde qui serait organisé autour des interactions entre l'humain, enfin la santé animale, la santé humaine et la santé végétale. Ça, c'est un premier aspect qui me semble important. Le deuxième aspect, le deuxième apport de la recherche, c'est la capacité à se projeter, voire à faire de la prospective. Donc là, par exemple, moi, je sors tout juste d'un colloque de plusieurs jours sur la sobriété. Quelle trajectoire vers la sobriété ? On a rassemblé au Centre culturel international de Cerisy tout un panel de chercheurs avec lesquels on travaille pour tenter de mieux appréhender ce sujet et de fournir des clés de compréhension aux acteurs. Un troisième enjeu, c'est d'outiller les acteurs. On en parlait, l'importance, c'est de mettre en œuvre la recherche sur les territoires. Et là, on travaille avec la COP des communs, donc qui mobilise des experts et de la recherche sur le sujet des communs. Donc, qu'est-ce que c'est ce sujet des communs ? Quelle place de collectivité ?
Alors, justement, c'est une question, parce que depuis que je creuse ces questions de développement durable, il y a ce mot de commun qui arrive.
Ah là là,
alors,
pour c'est moi, un sujet très à la mode.
Qu'est-ce donc que les communs ? Moi, je me souviens de Julia de Funès qui disait « Chaque année, il y a un nouveau mot qui apparaît. »
Exactement.
Alors, cette année, c'est le mot « commun ». Bon, bah écoutez, mais c'est quoi les communs ? Pour moi, les communs, c'était ce petit endroit à côté d'un château où on mettait les bonnes et les valets, vous voyez ? Alors, c'est quoi les communs ?
Alors, c'est pas tout à fait ça. Le danger, effectivement, vous avez tout à fait raison, on a eu le mot de résilience comme ça.
Oui, c'est ça, il y a eu résilience
après
aussi.
Transition. Et là, maintenant, c'est les communs, on parle de communs, de biens communs, etc. Et nous, justement, avec ce projet-là, on a l'ambition de faire en sorte que ce mot, il ne devienne pas un mot valise. Et donc, pour nous, les communs, c'est un sujet de recherche, c'est-à-dire que l'idée, c'est de mobiliser sur un territoire, c'est un projet de territoire autour d'une ressource qui peut être matérielle ou immatérielle.
Donc, en substance, si je résume, mais vous l'avez très bien expliqué, mais j'aime bien resynthétiser pour les auditeurs. Le commun, c'est on a un lac. Ce lac, il est primordial pour le développement de notre territoire. Nous tous, associations, pouvoirs publics, entreprises, on se dit il faut sauver ce lac et sa biodiversité. C'est un commun, ce lac, et on va travailler autour de ce commun ensemble pour lui donner la place qu'il doit avoir dans le développement territorial.
Exactement, c'est tout à fait ça. Et je trouve que c'est vraiment... Je trouve que ça fait partie des signaux faibles et des choses qu'il faut vraiment... travailler et cette place des collectivités, mais je ne veux pas m'étendre sur cette recherche, mais la place des collectivités est super importante et on va en parler après, je vais en parler juste après sur la légitimité des acteurs dans l'ensemble de ces processus de co-construction territoriale. Oui, et donc je continue, il y a aussi la recherche, elle peut aussi tester des nouveaux process pour faire système. Par exemple, nous, on finance les travaux de la chaire de comptabilité écologique qui est AgroParisTech, qui vise à intégrer dans les systèmes comptables, donc carrément de transformer les systèmes comptables peut-être qu'ils existent aujourd'hui, pour intégrer les capitaux humains ou naturels. Donc ça, c'est aussi, c'est aussi l'idée de faire système. Voilà, j'avais un tout dernier exemple, c'est pour aider nos métiers à accompagner les territoires et analyser les projets de financement et comprendre l'existant. Par exemple, on a un travail avec l'Observatoire des territoires d'industrie où en fait, on va essayer de comprendre quels sont les leviers des territoires d'industrie essentiels dans nos missions de soutien à la relance industrielle.
Alors justement, quelle place, on verra, on va écouter cette interview de manière attentive avec vous et Isabelle de Laurent Lely. Quel lien vous pouvez faire, juste pour introduire en fait cette longue interview, entre la Caisse des dépôts, l'Institut de recherche et justement le travail économique? On sent, même si vous ne financez pas directement la chaire Interaction, on a entendu que vous travaillez quand même avec AgroParisTech déjà.
Les acteurs de la recherche, je pense qu'ils ont vraiment toute leur place. Ils ont une vraie légitimité d'intervenir aux côtés des autres acteurs dans les démarches de co-construction territoriale. C'est une expertise complémentaire. C'est ça qui est très important. Ce n'est pas une expertise au-dessus, en dessous. C'est vraiment une complémentarité pour appréhender la complexité des projets. Et je pense que dans les enjeux de transformation qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est vraiment très important qu'ils soient autour de la table. Alors, il y a une question de posture aussi qui est importante. Ce n'est pas un acteur local, ce n'est pas un professionnel du secteur, ce n'est pas non plus un cabinet d'expertise. Nous, on s'appuie beaucoup sur des cabinets d'expertise pour apporter de l'ingénierie au territoire. Là, c'est autre chose. Il n'y a pas de client en tant que tel. Hein. L'objet de leur intervention, c'est la recherche. Moi, je pense qu'elle peut prendre toute sa place. On a beaucoup, nous, de demandes de collectivités qui nous disent, en fait, nous, on a besoin de ces acteurs-là parce qu'on n'a pas la capacité à prendre du recul sur les choses. On a besoin de cette ressource. Et je pense que le sujet derrière tout ça, c'est simplement de donner sa juste place à chacun. Y a la collectivité qui va avoir son projet politique, il y a les acteurs du territoire qui vont avoir leur vision territoriale dans leur grande diversité, et il y a les cabinets qui vont apporter une ressource, une expertise extérieure à un moment donné sur un sujet bien précis, et puis il y a l'acteur académique qui doit effectivement trouver sa place, sa légitimité. Donc je pense que c'est vraiment ça le sujet. Oui.
Alors, je vous propose, si vous le voulez bien, d'écouter cette longue interview de Laurent Lély qu'on a enregistrée au mois de février l'année dernière dans ses bureaux à Clermont-Ferrand. On avait, vous le constaterez assez rapidement, on s'extasie nous-mêmes sur cette belle vue sur les monts d'Auvergne. Donc, je vous propose, après cette petite virgule, de nous téléporter dans le bureau de Laurent Lély à AgroParisTech à Clermont-Ferrand. Et puis, on se retrouve tout de suite avec vous, Diane et Isabelle, tout de suite après pour justement évoquer ce long échange.
Hello, salut, comment ça va ?
Voilà, je suis donc avec Laurent Lély, vous êtes directeur du campus de Clermont-Ferrand, vous êtes aussi directeur de la chaire Partenariat Interaction, vous intéressez à la question des territoires et justement dans le cadre de ce podcast autour de l'ODD 17, comment construire de manière collectif les territoires pour qu'ils soient durables et soutenables dans le temps. On a du mal à voir pourquoi AgroParisTech s'intéresse à cette question des territoires. Alors si, on le voit peut-être au travers de l'agriculture, mais pas que.
Ouais, c'est une bonne question parce qu'en fait, donc on est une école d'agronomie. Hein. On est un institut d'agronomie qui travaille sur les questions d'environnement, sur les questions d'agriculture, d'alimentation. Et le centre de Clermont est un centre dédié aux questions du développement territorial. À la base, on a travaillé en formation continue, donc on formait les cadres du ministère de l'Agriculture à appréhender les politiques agricoles nouvelles qui émergeaient dans le cadre des politiques européennes, des politiques nationales. Et l'interaction avec les territoires, c'était finalement comment une politique agricole, elle a une résonance, elle a une difficulté à s'insérer dans un écosystème territorial auprès d'acteurs qui n'ont pas forcément la visibilité de ce qu'est une stratégie agricole à une échelle qui n'est pas, leur échelle habituelle. Donc l'établissement a la chance, je crois, d'avoir un campus qui s'intéresse à ces questions-là et qui surtout construit des méthodes d'accompagnement pour les acteurs agricoles, mais aussi pour les acteurs territoriaux, qu'ils soient publics ou privés, et pour les aider à la fois à améliorer la qualité de leur politique et puis améliorer les liens qui peuvent s'opérer entre les différents acteurs.
Alors, quels sont justement les enjeux pour AgroParisTech ? On va parler globalement, avant peut-être de rentrer sur la notion de territoire, mais quels sont les enjeux pour une école comme AgroParisTech aujourd'hui ?
Alors les enjeux, vous les voyez dans l'actualité, hein, c'est la souveraineté alimentaire, réfléchir à comment on peut continuer à bien nourrir la planète, avoir des produits de qualité, faire en sorte qu'il y ait suffisamment de produits pour pouvoir assurer cette souveraineté alimentaire. Donc il y a un gros axe autour de cette souveraineté alimentaire. Il y a aussi un axe lié justement à des questions de développement durable sur la qualité agricole, faire en sorte qu'on consomme moins d'eau, moins d'intrants. Vous vous rendez compte à quel point c'est d'actualité aujourd'hui. Donc toutes les réflexions sur la transformation des pratiques agricoles est un enjeu de formation absolument colossal parce que sont en tension, en friction des modèles qui n'ont pas forcément envie de dialoguer entre eux. Et tout le boulot de l'apprentissage et de la formation, c'est de former des esprits, justement, à regarder tous ces modèles-là.
Et c'est des futurs ingénieurs ou c'est des futurs agriculteurs que vous formez ?
Les deux. Mmh. On forme à la fois des experts qui accompagnent les politiques agricoles en France, en Europe, à l'international. On forme des jeunes qui veulent s'installer dans les différents modèles, du maraîchage jusqu'à l'entreprise agricole la plus moderne. Donc, on a cette responsabilité de regarder tous les prismes agricoles et de former à travers ça.
Une formation qui s'enracine aussi dans la question des territoires, parce qu'évidemment, la question ultime est primordiale, même c'est même pas ultime, elle est primordiale pour toute démarche agricole, c'est le foncier, c'est la terre. On le voit bien aujourd'hui, peut-être un peu moins aujourd'hui, peut-être que ça se démocratise un petit peu plus, la question de l'acquisition du foncier. Pendant un moment, ça a été d'une extrême complexité pour un agriculteur qui voulait s'installer, voire même pour les fameux NINA, les fameux ceux qui arrivent de nulle part, qui étaient fils de médecin ou d'ingénieur et qui tout d'un coup décident de venir cultiver la terre.
Alors je pense que c'est un enjeu encore absolument colossal, parce qu'en fait la question du foncier est liée avec la courbe de disparition du nombre des agriculteurs. On va encore avoir beaucoup d'agriculteurs qui vont partir à la retraite et qui auront énormément de mal à trouver des repreneurs. Et donc la question du foncier, c'est aussi un enjeu et d'enseignement et de recherche très, très, très important. C'est aussi un élément qui résonne avec les territoires de manière très anecdotique, mais ça n'est pas tant que ça. Aujourd'hui, le foncier agricole, quand il n'est pas repris par des Français, il est racheté par des Chinois. Et pour des raisons qui sont très, très loin de...
On sait la proportion aujourd'hui de fonciers agricoles? Non, on ne peut pas le savoir.
Non, c'est très, très compliqué. On a des...
À un moment donné, ils investissaient beaucoup dans les vignes. Ouais. C'était le principal foncier racheté par les Chinois, peut-être parce qu'ils aimaient notre vin.
Oui,
il y avait une spéculation.
Il y avait une approche emblématique d'aller chercher de la spéculation sur les vignobles. Aujourd'hui, ils achètent les fonciers les plus délaissés. On a les fonciers les moins chers d'Europe, notamment sur le Massif central. Et en fait, on les voit, ils spéculent sur l'anticipation du paiement de la taxe carbone. Donc en fait, ils rachètent du foncier, pas pour faire de l'agriculture, ils rachètent du foncier pour le stockage carbone.
C'est ça, pour le stockage carbone, et se dire bah, ce qu'on a là va nous permettre de, bah, finalement de faire une déduction fiscale, hein, tout simplement. Mais c'est plutôt que de faire un rescrit fiscal papier, ce sera un rescrit fiscal en surface de terre.
C'est ça, et ça pour les territoires, c'est dommageable. Parce que effectivement, ça prive des gens qui auraient envie de s'installer de cette capacité d'acquisition du foncier et de dialoguer aussi avec les territoires pour pouvoir s'installer. Donc ça, ça fait partie des éléments de complexité qui marquent les stratégies foncières.
Pendant longtemps, Laurent Lély, la question du foncier était aux mains d'un ou deux acteurs, pas plus. On a l'impression que ça se démocratise un petit peu plus. Il y a de nouveaux entrants. À quoi c'est dû une fatigue des gros acteurs de gérer cette question du foncier où ils sont en train de se faire ubériser?
C'est pas une question facile parce que je pense qu'il y a autant de territoires qu'il n'y a de situations foncières. Et moi, j'ai vraiment le sentiment qu'en fait, on est dans des territoires ruraux où, en dehors de tout le mythe du Covid qui nous a dit que les urbains allaient tous venir à la campagne, tout ça, c'est pas véritablement passé.
On a vu ça la semaine dernière.
Voilà,
là, ça, c'est...
et en fait, on voit bien qu'une partie des gens qui aujourd'hui ont le désir d'habiter en campagne, ont le désir d'accéder à un foncier, et les communes n'étaient pas forcément préparées à répondre à ça. Parce qu'effectivement, le foncier était dans des stratégies de gestion familiale, de gestion communale. Et intégrer finalement des nouveaux acteurs avec des nouveaux projets, avoir une politique foncière qui ouvre et qui comprend le besoin de ces nouvelles populations, ce n'est pas forcément quelque chose que l'élu sait bien faire. C'est accompagné. Et puis après, il y a des résistances. On ne lâche pas un foncier, c'est un patrimoine.
Et surtout chez les agriculteurs, hein, ça reste le patrimoine familial, on ne le lâche pas comme ça, ça reste...
Et donc c'est vrai qu'il y a à la fois, je pense, une forme de méconnaissance donc, des élus de comment on peut accompagner ces projets-là, et puis il y a une forme de peur de l'étranger qui arrive, qui n'arrive peut-être pas avec les mêmes codes que le territoire qui est peuplé d'agriculteurs depuis des dizaines et dizaines d'années. Et je pense qu'il y a, voilà, il y a tout un processus qui n'est pas qu'un processus juridique, qu'un processus de, financier, il y a aussi un processus de mieux comprendre ce qui est en jeu.
Comment on peut aider justement les collectivités et les territoires à mieux comprendre ? C'est le rôle peut-être d'AgroParisTech de pouvoir accompagner ces territoires dans cette forme de mutation, parce qu'on l'a vu, il y a le foncier, il y a les urbains qui viennent à la campagne qui achètent du foncier, bon, ils achètent une maison de campagne avec du terrain, mais il y a aussi ces fameux repreneurs de terres agricoles qui arrivent et qui arrivent parfois de nulle part et certainement pas de la région.
Oui, alors c'est vrai. Alors il y a des structures qui accompagnent aujourd'hui à la reprise du foncier. Il y a des structures comme Terre de Liens qui sont intéressantes parce que à la fois elles prennent le temps de comprendre si le projet que l'acteur A, du point de vue agricole, est un projet solide. S'il n'est pas suffisamment solide, quelle formation on peut lui donner pour qu'il acquiert très très vite ce qu'il faut pour le réaliser, et puis qui aide à trouver le foncier qui correspond au projet. Donc il y a des structures d'interface qui font le lien, et les élus sont d'ailleurs contents d'avoir ces intermédiaires, parce que ça évite d'avoir des projets où finalement vous installez quelqu'un, 3 ans après il est au RSA, il ne vit pas de son activité, il s'en va. Donc je pense que c'est plutôt le rôle de ces structures-là d'être facilitatrices. Nous, du point de vue de la recherche, ce qu'on regarde, c'est une approche un petit peu plus macro, c'est-à-dire pourquoi on vient, sur quelle motivation on fonde ce désir d'installation. Et puis, s'il y a par exemple des valeurs d'installation à l'agroécologie, de quelle agroécologie on parle et techniquement, elle se réfère à quoi ? Donc on est vraiment plutôt sur une compréhension du système, une compréhension de la posture d'engagement dans un territoire.
Alors, on va parler de la notion de collectif dans un territoire, puisque là, on s'intéresse aussi à la question de comment on peut construire collectivement un territoire. AgroParisTech accompagne, au travers de la chaire, hein, Interaction, cette réflexion sur le construire collectif, parce qu'on l'a bien vu, ça ne peut pas être, et d'ailleurs, vous venez de le dire, hein, ça ne peut pas être uniquement le territoire tout seul. Le territoire, il a besoin parfois d'experts, d'intermédiaires. Il a besoin aussi de savoir quels sont les besoins qui sont nécessaires sur ce territoire pour qu'il se développe socialement, économiquement, du point de vue de l'environnement. C'est ça l'idée de la chaire Interaction ?
Ouais, la chaire, elle poursuit plusieurs objectifs, en fait. Donc la chaire Interaction, ça veut dire innover dans les territoires et accompagner les transitions. Alors, innover dans les territoires, regarder finalement qu'est-ce qui se passe dans un territoire. Alors, pas forcément que les territoires ruraux, on s'intéresse à tous les types de territoires. Qu'est-ce qui se passe, ça veut dire comment on peut qualifier les dynamiques. Alors, les dynamiques, elles peuvent se qualifier par la data, par les chiffres, par les données. Et puis, elles peuvent se qualifier aussi par une manière d'aller rencontrer les gens et de voir qu'est-ce qu'ils perçoivent des dynamiques de leur propre territoire. Et on a fait beaucoup, beaucoup d'enquêtes avant la chaire où, en fait, on s'est rendu compte qu'il est très, très difficile pour un acteur de qualifier le changement dans son territoire. Le territoire, vous l'avez devant les yeux tous les jours et vous voyez quand ça a changé. Vous ne voyez pas ce qui est en train de changer. Donc la bascule, elle est trop tard, quoi, par rapport au changement. Donc on a vraiment cet objectif de travailler sur une qualification des dynamiques parce que les acteurs disent eux-mêmes et comment on peut les accompagner sur la prise de conscience de ce qui change. Après, on a un dispositif où on regarde quel est le chemin à faire en termes de compétences à acquérir pour se transformer. Alors ça concerne les agriculteurs, mais ça concerne aussi un agent de collectivité. Comment on met en œuvre une transition aujourd'hui ? Alors je vais prendre volontairement pas transition agricole, mais transition culturelle. Comment on travaille la transition culturelle dans un territoire ? C'est pas évident. Il y a plein de recettes, entre guillemets, qui sont servies dans pas mal de manuels. Mais la transformation, elle est anthropologique, elle n'est pas technique. Elle est d'abord de se transformer soi, et donc on regarde ça avec la chaire. Et puis après, on a bien sûr des partenaires avec lesquels on essaie de développer les programmes.
Donc avec le Rameau en particulier avec d'autres acteurs, la Fondation RTE, je crois, est avec vous aussi.
Oui, la Fondation RTE, avec la Fondation Avril, on finit là un programme cette année de 3 ans qui s'appelle Territoire Agriculture Positive. On a regardé sur 9 territoires du Massif Central comment on pouvait accompagner des projets agricoles qui rencontrent les territoires et comment le dialogue pouvait se nouer entre collectivités territoriales et agriculteurs pour faire que le projet agricole s'intègre mieux au projet territoire. Et donc, c'est un des programmes de la chaire. Et puis, avec le Rameau, on a en fait cette intuition, je pense, au départ. Au départ, c'est une intuition...
En recherche, il y a beaucoup d'intuition au départ.
Oui, c'est souvent l'intuition. On parle souvent de l'intuition. mais que la mise en coopération passe par la mise en lien, la mise en... En écoute et en regard de l'autre de manière beaucoup plus profonde que ce qu'on le fait sur la question des territoires, notamment je prends l'exemple en lien avec les entreprises. Nous on est AgroParisTech à Clermont, des spécialistes de l'approche territoriale des acteurs publics, pour le dire très simple, État, collectivité. On travaille en formation depuis de très très nombreuses années avec eux, on voit très très bien comment ils fonctionnent. Quand on parle de stratégie territoriale des entreprises, il y a beaucoup plus de dimensions implicites, de dimensions cachées, et puis il y a beaucoup plus de difficultés à créer le lien entre l'acteur public et l'acteur privé. Il y a des représentations, et nous on bosse sur justement éclairer les représentations des uns et des autres pour que finalement, peut-être qu'une fois que les masques sont tombés, on arrive à se comprendre et puis avoir envie de bosser ensemble.
Alors justement, vous le dites très justement, arriver à se comprendre, c'est la question du langage. Vous l'aviez évoqué un petit peu lors de la soirée de restitution. Et pour moi, ça me semble assez central, cette question du langage. Comment on arrive à apprendre la langue des uns et des autres ?
Alors, il y a plusieurs manières. Déjà, il faut avoir envie. C'est-à-dire qu'il faut créer un climat de bienveillance où on va considérer que si on se comprend pas, on n'est pas là pour se juger, mais on est plutôt là quand même pour essayer de comprendre ce qu'a envie de dire l'autre ou ce que dit l'autre. Alors nous, on le fait souvent sur le terrain, c'est-à-dire qu'on va voir, on met des acteurs différents, on les met en situation, souvent en situation de jeu, de scénarisation, on leur montre des objets dans le territoire et on les fait parler sur ces objets. Et nécessairement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'ils parlent pas de la même chose. Ils voient, ils croient voir la même chose, mais ils ne parlent pas de la même chose. Et donc, on travaille après de manière un peu réflexive sur « mais qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ça se réfère ?» Et de ça naît une acculturation et puis une forme d'apaisement, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est souvent... Les organisations professionnelles se transforment en permanence. Et donc... on est souvent dans un régime où on se dit bah, je ne suis peut-être pas au niveau, je vais peut-être dire une bêtise. Et je pense que pour beaucoup, cette construction de référentiel commun, elle passe par le fait de dire bah, voilà d'où je parle, voilà qui je suis, voilà comment j'en parle. Et entendre ce que dit l'autre, ça apaise beaucoup, je pense. Voilà.
Et dire qu'à partir du moment où on a un langage commun, d'ailleurs ça me fait penser un peu à la réflexion d'Emmanuel Lévinas hein, sur le rapport à l'autre et la notion de mêmeté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je parle le même langage de l'autre, je reconnais sa différence et donc j'entre dans une relation de confiance.
Oui, il y a un peu ça. Et puis il y a peut-être cette idée que vous êtes une fois cette étape passée de comprendre un peu qui est l'autre, peut-être qu'on va quand même pas parler tout à fait le même langage, mais on acceptera le langage de l'autre. Et en tous les cas, on saura de quelle position il parle, et ça rend les choses beaucoup plus faciles si l'objectif, c'est d'aller vers l'action. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus, en fait. On n'est pas sur juste un éclairage sémantique. On est sur, quand vous êtes sur une parcelle agricole et qu'il y a une difficulté liée à la qualité d'un sol et qu'il faut trouver une solution, ben, vous avez l'acteur agricole qui a sa solution, vous avez l'expert qui a sa vision, et puis vous avez peut-être l'institutionnel qui arrive en disant « oui, mais vous avez oublié ce critère-là ». Et il faut faire ce boulot de médiation, en fait. Et nous, on pense que c'est un préalable aux approches territoriales que d'appréhender ça.
C'est ce que j'allais dire, l'approche territoriale, le penser collectif, le développement durable et soutenable d'un territoire sur toutes ces dimensions, on va dire RSE, hein, puisqu'on en parle peut-être pas assez souvent d'ailleurs, de la démarche RSE des territoires. On parle beaucoup de la démarche RSE, responsabilité sociale et économique, et j'aime bien le RS2E et environnemental des entreprises. Finalement, on parle assez peu de la responsabilité de la RSE des territoires.
Oui, parce qu'elle est parce qu'elle est en silo encore probablement aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de RSE des territoires. Je pense qu'il y a une RSE dans les politiques territoriales, thématiques.
On le voit d'ailleurs avec certaines métropoles qui ont lancé des plateformes RSE. Ouais. Je pense à ma bonne ville de Nantes, excusez-moi, je suis un peu chauvin, mais où ils ont lancé cette plateforme RSE, des entreprises, des collectivités qui dialoguent autour de cette question-là. Le préalable donc à construire le collectif, pour vous, passe d'abord par on apprend le langage, on crée une dimension de confiance et après on peut agir ou il y a d'autres étapes ?
Alors il y a des étapes qui sont des... En fait, c'est un itinéraire d'accompagnement, c'est un processus au sens de... des processus dialogiques d'Edgar Morin, totalement. On a une fois que vous avez établi le processus de confiance, il faut construire les objectifs communs. Il faut trouver le commun, en fait. Et la grande difficulté de nos sociétés aujourd'hui, c'est que de par l'individualisation de cette vision du territoire, on est sur un territoire mis en marché, consommé, retrouver du commun, c'est accepter aussi de renoncer à une partie de ce que l'individualisme nous offre. Et donc, c'est un accompagnement au renoncement.
À la résilience.
À la résilience. Et puis, c'est accepter l'idée que dans le commun qu'on va construire, on va trouver d'autres satisfactions et elles seront peut-être plus collectives. Donc, c'est presque une maïeutique très compliquée parce qu'on ne sait pas si ça va marcher. On ne peut pas décréter que ça va marcher.
Alors, j'allais vous poser la question. Aujourd'hui, vous avez commencé ces démarches-là. Est-ce que vous avez des embryons de territoires, des exemples ? On en a parlé un peu en théorie. On voit comment ça fonctionne parce qu'on a vu telle chose fonctionner à tel endroit, mais qui ne fonctionne pas forcément à une autre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez des territoires qui commencent une démarche et une démarche qui, selon vous, prend les bons chemins pour arriver à terme ?
Il y en a beaucoup. J'en ai deux à l'esprit qu'on accompagne avec la chaire de manière différente. Mais le grand site du Puy-Marie, dans le Cantal, par exemple, qui me paraît être un laboratoire d'idées et d'innovations assez fort. On les a suivis pendant 3 ans là, dans le cadre du programme Territoire Agriculture Positive. Et en fait, le grand site, c'est un grand site touristique. Hein, c'est 400 000 visiteurs l'été sur ce volcan pour admirer les crêtes du plus gros volcan d'Europe. Hein. Et ces crêtes, avec le changement climatique, elles sont menacées d'embroussaillement. Et le grand site qui n'a pas la compétence agricole dit on va aller voir les éleveurs ovins du territoire et puis on va leur proposer un partenariat. Mettez vos moutons sur nos crêtes et puis nous on vous aidera à valoriser le produit de l'agneau, un produit labellisé agneau des volcans. Et je trouve que c'est une bonne idée parce que finalement il y a un partenariat et puis pour la profession agricole, il y a le sentiment de rester agriculteur même si vous entretenez le paysage.
C'est ça. Et en même temps, on revalorise aussi un produit local à travers un label qui est les moutons des volcans. On en est où ? Alors ça, c'est l'idée ? Ça prend bon chemin, comme
on dit ? La première partie est faite, c'est-à-dire que le collectif des éleveurs s'est structuré et il y a du pâturage sur les crêtes depuis 2 ans.
Ouais.
Et l'étape maintenant à finaliser, c'est faire l'IGP, agneau du Puy-Marie.
C'est peut-être ça le plus compliqué, non ? Non, ça va être plus simple.
Ça serait compliqué si le grand site se désengage.
Ouais.
Si ça redevient un projet agricole, ça perdra de son intérêt. Il faut absolument que le partenariat entre la collectivité et le groupement continue. Voilà.
Ce qui nécessite de trouver toujours des équilibres. On en parlait, j'en parlais avec Bruno Valadier. Justement, le PTER, c'est le plan d'équilibre territorial. Et il faut toujours avoir ces équilibres entre l'urbain, le rural, pouvoir public, pouvoir privé, pouvoir agronomique et agriculture.
Oui,
toujours
alors,
trouver cette notion d'équilibre.
Monsieur Valadier, hier... a beaucoup insisté sur l'équilibre par rapport à des aspects financiers.
Oui.
Et en fait, je pense qu'il faut complètement l'inverser. L'équilibre, il est d'abord justement sur la capacité à garder un équilibre sur les liens. Et l'exemple du Puy-Marie est intéressant parce que le grand site, là, renouvelle totalement sa gouvernance. Le directeur est parti, il va être remplacé. La qualité du lien qui existait entre l'ancien directeur et le groupement était formidable.
Mmh.
Il ne faut pas perdre ça.
C'est ça.
L'équilibre, il est d'abord là. L'équilibre, il est dans le projet humain. si l'équilibre du projet humain
est rompu,
vous avez d'énormes difficultés. Voilà.
Donc là, on a plein d'espérance pour le Puy-Marie.
Oui.
La chaire des territoires a fini un programme, là. La chaire interaction vient de terminer un programme. Vous allez vers où maintenant ?
Alors bon, on finit un programme avec la Fondation Avril et la Fondation RTE. On est en discussion pour voir comment on peut capitaliser, prolonger les réflexions. Avec le Rameau, on a un programme assez ambitieux de travailler justement sur c'est quoi le projet de territoire aujourd'hui ? Quel est le projet de territoire qui rentrerait dans les objectifs de l'ODD 17 ? Et donc, on va annoncer la semaine prochaine au Salon de l'Agriculture, dans le cadre d'une table ronde qu'on organise sur le stand d'AgroParisTech, un programme d'audition sur finalement comment on peut inventer le projet de territoire de demain, en insistant sur la capacité de coopération et en inventant une ingénierie qui probablement n'existe pas aujourd'hui. Donc c'est le projet de l'année 2023, avec une capacité d'audition d'un certain nombre de personnalités qu'on n'a pas encore totalement définies.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes en train de me dire, Laurent Lely, qu'aujourd'hui, AgroParisTech, le Rameau, est en train de construire un métier du futur qui serait les accompagneurs, les ingénieurs des territoires pour accompagner les territoires dans leur innovation territoriale ?
Je ne sais pas si c'est ça qu'on fait. En tous les cas, c'est un peu l'arrière-plan de la réflexion qu'on mène avec Charles Benoît Estique. Je ne sais pas si c'est des métiers ou si c'est des postures qu'on est en train d'inventer. En tous les cas, je pense qu'il faut commencer par les postures.
Parce que je pense à ces nouveaux métiers qui arrivent dans nos territoires, qui sont encore assez peu connus, qui sont souvent tenus par des jeunes. Je pense particulièrement sur la question énergétique et on l'a vu dans une émission précédente de l'Écho des solutions sur la rénovation énergétique des bâtiments. Combien, par exemple, les ingénieurs de flux aujourd'hui, qui étaient des métiers complètement inconnus il y a 3-4 ans, qui le sont encore, hein, je vous rassure, mais dont les territoires ont besoin, et se dire aujourd'hui on va peut-être avoir des ingénieurs d'innovation territoriale qui vont accompagner les démarches et les acteurs publics, que ce soit les mairies, mais que ce soit aussi les syndicats d'énergie, quel qu'il soit, à pouvoir innover et à mettre en relation, créer du lien et du décodage de langage, ce serait absolument formidable, non ?
Oui, mais vous avez raison, et c'est un des autres chantiers qu'on développe avec le Rameau cette année. On a une réflexion sur leur formation chef de projet innovation territoriale. Et donc, on a un stagiaire qu'on accompagne depuis peu sur qu'est-ce que c'est ce métier de chef de projet innovation territoriale ? Est-ce qu'il existe déjà ? Et s'il existe, sur quelles compétences il s'appuie aujourd'hui ? Et éventuellement, est-ce qu'avec les compétences sur lesquelles il s'appuie, il répond aux objectifs qu'il s'est assigné, ou est-ce qu'il faut trouver d'autres leviers ? Donc, on est vraiment dans l'analyse de ce référentiel-là. Ce qui est intéressant, c'est que le Rameau regarde le prisme de ses chefs de projet avec une antériorité, une expérience sur ce sujet. Et nous, on arrive, partenaire académique, avec un regard qui est peut-être encore un petit peu plus pluriel, parce qu'on se rend bien compte que dans les métiers de la territoriale, la question de l'innovation est quand même difficile à saisir. Et justement, comment on peut faire le pari de la rencontre entre ces mondes-là.
On parlait du monde académique parce que c'est très intéressant. On voit que pour construire une réflexion collective, il ne faut pas faire l'impasse sur la dimension académique. Aujourd'hui, c'est AgroParisTech, mais ça pourrait être HEC, ça pourrait être les EO, ça pourrait être Audencia, peu importe le partenaire académique. Quel est, selon vous, le rôle du partenaire académique dans cette réflexion globale pour penser collectivement le territoire ?
En fait, il y a deux façons de le penser. Si on définit le partenaire académique d'abord comme partenaire classique, universitaire, qui fait de l'enseignement et de la recherche, ça pose la question du statut du chercheur, à qui on assigne souvent la nécessité ou l'exigence de fournir une expertise absolue et qui éclaire ensuite l'action. C'est un modèle qui existe, c'est un modèle qui fonctionne sous certains aspects. Nous, celui qu'on a pris dans la chaire, c'est plutôt d'être sur une forme de recherche-action, donc de partir de l'action pour interroger avec les outils de la recherche, l'action en train de se faire. Et du coup, on est, nous, ce que j'appelle un peu des chercheurs impliqués. On est dans les territoires, dans l'action en train de se faire. Et à certains moments, on ressort pour essayer de re-théoriser ce qui se passe dans les dynamiques territoriales et de requalifier éventuellement ce qu'est un territoire. Et la chaire pour ça est un espace passionnant parce qu'elle nous offre avec les partenaires la capacité d'être totalement dans les mécanismes, dans l'action, dans la diversité absolument géniale d'actions en train de se faire. Et puis en même temps de ressortir en disant « ouais, elle se fait, mais elle ne se voit pas ». Et comment on peut faire en sorte que ces acteurs-là soient visibles, soient valorisés.
Vous êtes un peu la donnée méta, c'est-à-dire au cœur du projet. De temps en temps, vous avez cette capacité à être dans le projet, mais aussi au-dessus du projet, de pouvoir de temps en temps remettre un petit peu, l'église au milieu du village en disant « Attention, là, il y a peut-être ceci, là, on a cette brique-là qui manque ». C'est un peu ça aussi.
Alors,
votre rôle ?
Alors, c'est ça. Oui, heureusement, c'est ça. Parce que sinon, on serait un peu, on serait pas forcément très stable dans notre tête. Mais j'ai envie de rajouter, c'est aussi être en capacité de dire aux acteurs sur les territoires, là, on ne sait pas. Et on va faire avec vous. On va chercher avec vous. La recherche-action, c'est un peu ça. C'est de dire, on n'est pas des experts, on n'a pas les solutions à tout. Parce qu'il y a des mécanismes tellement complexes aujourd'hui sur les questions environnementales, par exemple, en lien avec le changement climatique, qu'on sait très très bien que les solutions, on ne les a pas. Il faut les inventer. Mais il faut les inventer ensemble. Et il ne faut pas les déléguer uniquement à l'acteur académique. Voilà. Alors, c'est une position. Hein. D'autres chercheurs vous diront que c'est dangereux, il ne faut pas faire comme ça, ce n'est pas neutre. Mais nous, on considère que la recherche-action est une manière d'entrer très très vite en résonance avec la réalité. Et je pense que par contre là on a urgence à le faire, on n'a pas 50 ans pour trouver une solution quoi.
Hello, salut. Comment ça va ?
Voilà, merci encore à Laurent Lély de nous avoir accordé au mois de février l'année dernière ce long échange. On voit bien d'ailleurs que même s'il y a plus de six mois qui sont passés, toute l'actualité. Isabelle, je rappelle que vous êtes directrice du Hub Innovation à Centrale Lille Institut. Ma première question, c'est de savoir votre effet miroir. Qu'est-ce que vous retenez de ce long échange, Isabelle ?
Alors moi, c'est le long échange en question. Je pense que c'est intéressant de regarder tout le lien qui a été fait entre l'école et le territoire, parce que bien entendu, c'est cette dimension-là. Comment ils vont faire participer et contribuer les jeunes, notamment à ces enjeux de territoire. Moi, ça fait d'autant plus écho, puisque effectivement, sur la région lilloise, on a un énorme chantier qui est lancé depuis au moins 20 ans, et du coup, qui s'appelle donc notamment Rêve 3, donc toute la démarche qui a été faite sur le territoire des Hauts-de-France. Et on a des écoles qui participent plus activement, comme le fait aujourd'hui AgroParisTech, et notamment notre école, aux transitions du territoire. Et donc ça, moi, c'est le premier élément qui me marque dans l'échange qui a été posé. C'est finalement... peut-être pas encore assez d'écoles. J'appelle de mes voeux qu'il y ait d'autres écoles comme les nôtres qui, aujourd'hui, soient des acteurs pour aider aux transitions des territoires.
Et chez vous, Diane, qu'est-ce que ça a évoqué, cet échange avec Laurent ?
Alors moi, déjà, pour dire que je suis en phase complète avec ces propos, je trouve que c'est particulièrement pertinent et on a besoin de les entendre aujourd'hui. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est... toute sa partie sur les méthodes d'accompagnement, les compétences. Ça, il parle pas. Alors, il y avait une discussion autour du sujet d'un métier à inventer, etc. Moi, je pense qu'il y a effectivement un vrai sujet là-dessus, c'est-à-dire comment est-ce que on identifie un ou plusieurs acteurs qui sont en capacité d'apporter ce nouveau métier de co-construction, de co-construire les projets. Alors, il y a déjà des structures qui existent de ce type. Je pense aux parcs naturels régionaux ou au PETR, au pays, qui ont cette vocation-là. Mais je pense qu'on est dans une telle complexité aujourd'hui, avec des, des projets territoriaux qui s'entremêlent, etc., que ça va être un vrai défi pour les années qui viennent.
En fait, le vrai défi, si je l'entends, et puis enfin, c'est pas si je l'entends d'ailleurs, parce que je l'entends régulièrement, c'est d'essiloter les choses, c'est-à-dire arriver à se dire, où on parlait des communs au début de cet échange, c'est-à-dire arriver à trouver des projets qui nous réunissent et où finalement l'économique pourrait mettre un peu en berne sa rentabilité. Mmh. Bon, il faut pas, bien entendu, dire qu'il ne faut plus être rentable, mais se dire on peut être un peu moins rentable, aux politiques de se dire je mise pas tout sur ma réélection, et aux associations je ne mets pas tout sur mon idéologie associative ou mon militantisme. On essaye de trouver des équilibres pour pouvoir faire avancer des projets, c'est ça?
C'est ça, il parle de médiation, je trouve que c'est un terme assez intéressant, mais vraiment médiation vers l'action. Et ça, c'est quelque chose, et on manque de méthodes, et on manque actuellement, enfin on manque, il en existe plein en fait, c'est ça un peu la difficulté, mais ça va être de capitaliser tout ça et puis de construire des choses.
Au début de cet échange, Isabelle, vous nous disiez combien il y avait une importance pour le monde académique de prendre en compte cette démarche de co-construction territoriale. Comment elle s'enracine à Centrale Lille ?
Alors, elle s'enracine dans une vision, puisqu'on avait l'idée en 2015 de comment justement on pouvait former nos ingénieurs à imaginer des solutions responsables. Et donc, le lien avec le territoire, c'est être utile. Donc, comment justement ces solutions, on pouvait les mettre au service d'acteurs qui avaient besoin de se transformer. Et on s'est vite aperçu que c'était tous les secteurs qui avaient besoin de switcher. Et quand je dis switcher, c'est bien ce qui est dit dans la vidéo, dans le podcast. C'est-à-dire vraiment, on doit changer de modèle économique, on doit travailler avec des acteurs, donc on doit se mettre en lien avec des acteurs de l'écosystème de la région. Et pour chaque secteur, ça suppose identifier à la fois les bons projets, les belles missions, et mettre le lien entre les jeunes qui sont déjà intéressés par ces secteurs et ces missions. Donc, quand vous commencez à regarder ça, vous dites, ben, non seulement pour innover et par l'action, puisque là, c'est bien l'objet, je vais donc mettre en relation des jeunes qui montaient en compétence sur ces secteurs, pas évident, par les acteurs et grâce aux acteurs, avec des bonnes missions, en faisant en sorte que les collaborateurs des entreprises, grâce à ça, puissent monter en compétence. Avec les chercheurs qui vont bien et au bon stade. C'est ce qui est carrément et ce qui est dit c'est les bons endroits pour bien pousser. Donc là aussi, il y a un sujet. Voilà. Donc en mettant en place cette équation, je peux vous dire que c'est un jeu d'enfant qu'on s'amuse joyeusement à faire depuis 7 ans.
Non, je vois Diane qui opine de tout son chef. Qu'est-ce que ça fait résonner chez vous, Diane?
C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut effectivement mettre. Tout le monde autour de la table. Et je trouve ça intéressant, cette notion de monter en compétences, parce que c'est vraiment un sujet. On se rend compte que dans ces démarches-là, tout le monde monte en compétences. Et si je peux rebondir sur ce que vous disiez et puis sur ce que disait Laurent Lélie, je trouve qu'on est vraiment...
Oui, allez-y.
On est vraiment, je crois que vous me coupiez, on est vraiment dans une démarche de recherche-action. Et on parle de recherche-action, c'est très important de le dire, parce que l'objet de ces recherches, c'est vraiment qu'il y a des terrains d'application. C'est pas tout à fait la même chose que ce qui existait avant. Et pour le dire aussi de façon un peu rigolote, c'est marrant parce que toute cette recherche-action, elle n'était pas tellement reconnue il y a quelques années dans le monde académique. Ça devient quelque chose d'essentiel.
Et oui, absolument, parce que dans d'autres lieux, on a eu l'immense joie à Clermont-Ferrand d'interviewer Coco Shaker, qui est un des catalyseurs territoriaux de l'économie sociale et solidaire, qui a aujourd'hui un thésard, qui est en thèse recherche-action au sein même de cette structure. Exactement. Et c'est vrai qu'on a toujours eu l'impression que la recherche passait dans des labos, dans des bibliothèques, mais en fait que finalement le plus grand labo du monde à explorer, ce sont nos territoires. Et c'est vrai qu'on voit monter en puissance, et peut-être que ça rend plus concret la notion de recherche et de thèse que plutôt ce côté un peu rat de bibliothèque ou rat de laboratoire.
Alors, je n'opposerai pas les deux, parce que les deux sont nécessaires. Mais en tout cas, je pense que pour appréhender les territoires, oui, ça me semble essentiel d'être en cohérence. Et c'est marrant parce qu'on a vraiment on a même aussi beaucoup de contre-chiffres dans des entreprises. Dans des entreprises qui agissent sur les territoires et qui ont besoin d'avoir cette ressource, qui considèrent vraiment comme une ressource essentielle pour le développement même de leur activité. Je trouve qu'on est arrivé dans un moment où la recherche commence à trouver sa juste place.
Allez, on arrive au terme un peu de cet échange. Ça va très très vite tout ça. Quelle est la next step, comme on dit, la prochaine étape à passer, Isabelle?
Nous, on a plutôt monté des dispositifs les uns après les autres. C'est-à-dire qu'on a commencé par innover par l'action, donc trouver des ingénieurs en phase avec des besoins et des chercheurs et pour travailler un écosystème. Ensuite, on s'est dit, mais face aux enjeux, c'est juste pas possible. Il faut créer des voyages déclic 2 ans avant qu'ils aillent sur les missions parce que appréhender des problématiques aussi importantes, donc ce qu'on appelle d'innovation systémique, il faut pouvoir les faire avancer en lien avec ce qu'ils apprécient et ce qu'ils veulent vraiment être utile. Hein. Donc, c'est comment je sors de mon école pour aller vraiment très concrètement aider le territoire. Du coup, on a fait un chapeau. La next step, c'est la régénération. C'est comment toutes ces jeunes, on arrive à sortir les 3 à 5% des impact makers qui existent dans toutes nos écoles et sur le territoire pour qu'ils s'activent et puis, bien entendu, ils travaillent ensemble.
Mmh. Et pour vous, Diane, et ce sera le mot de la fin.
Alors, pour moi, ce sera vraiment la diffusion et la capitalisation des travaux de recherche. Vraiment, je pense que la question du langage, elle est vraiment essentielle.
Comme le disait Laurent, j'ai beaucoup été marqué, j'étais très marqué par cette notion de langage, en fait.
Tout à fait. Et ça, c'est vraiment une vraie évolution, même dans le monde de la recherche. Nous, à l'Institut, on essaie de diffuser des travaux de recherche, on essaie d'en faire des formats qui soient compréhensibles, appréhendables par tous, ou en tout cas le plus grand nombre, à travers des petits cahiers de recherche. Donc, on fait des petits fascicules, des articles de blog, etc. On essaie de se faire parler plusieurs mondes, donc c'est pas simple. Et le travail, c'est un travail qui est intéressant même pour nous avec les acteurs académiques, parce que voilà, ils parlent pas aux mêmes personnes, ils sont pas en train de rédiger un article, ils sont en train de parler à une diversité d'acteurs, et je pense que même pour eux c'est très bénéfique. Donc le prochain enjeu pour moi, ce serait effectivement de capitaliser, de diffuser, et voilà, pour pas réinventer l'eau chaude à chaque fois, de partir de ce qui existe. Mais ça, c'est un énorme chantier. Ouais. Et je ne sais pas qui serait en capacité de le mener, mais je trouve que ce serait particulièrement pertinent.
Isabelle, avec Centralille, vous travaillez, vous venez de nous le dire à l'instant, la question des impact makers. Mais c'est quoi des impact makers? C'est déjà, en fait, vous repérez des étudiants qui font presque de l'intrapreneuriat à Centralille et qui vont pouvoir, si on les aide bien, devenir des acteurs systémiques de la transformation de nos territoires.
Oui, tout à fait. Bon, ça vient du constat qu'on a plein d'élèves aujourd'hui qui cherchent à être utiles, agir concrètement, et ils sont dans nos écoles, et donc aujourd'hui c'était de développer finalement un programme qui leur permet d'aider concrètement ces acteurs de territoire avec leurs talents.
Alors ça fait 8 ans que ça existe, hein, c'est ça? Et alors est-ce que au bout de 8 ans on peut avoir quand même quelques résultats? Ça donne quoi ces impact makers? Ça fonctionne? Il y a des... Bon, c'est comme dans tout, hein, il y a ceux qui marchent, il y a ceux qui marchent pas, il y a ceux qui vivotent. On en est où à peu près de cette ambition que vous avez?
C'est un cheminement, donc effectivement le programme existe depuis maintenant 8 ans. C'est 50 élèves par an. Donc qui accompagnent, et donc au début ils sont dans des accompagnements, ils sont à 4 avec une entreprise, une PME de la région qu'ils accompagnent sur ces enjeux, ces secteurs. En préalable, ils font un voyage de 2 ans préalable sur les enjeux du secteur pour mieux être capable d'appréhender comment j'innove en logistique, ça sera quoi l'enjeu de la grille demain. Donc c'est quand même important. Et quand ils sont en 4e et 5e année, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des jeunes qui créent des entreprises qui sont vraiment déjà avec tout cet enjeu d'écosystème local, en embarquant déjà directement les modèles économiques. Donc là, vous en connaissez sans doute quelques-uns, comme Pour Demain, c'est nos écoles, des choses, les fermes spirulines. On a des jeunes qui innovent complètement sur la création, la récupération de toutes les matières pour fabriquer. Donc tout ça, c'est la fierté finalement qu'ils entreprennent avec les bons modèles, et c'est ça que je trouve le plus important pour aujourd'hui.
Merci beaucoup Isabelle. Diane, juste une petite question complémentaire. Tout à l'heure vous parliez de l'importance de regarder les territoires, de travailler avec des équipes, des chercheurs, et il y a quelque chose qui m'a fait tilt, et j'avais la question en tête et je l'ai oublié, donc je vous la pose maintenant. Finalement, les écoles de design aujourd'hui, elles ont un rôle essentiel dans le travail de catalyseurs territoriaux. C'est presque, j'ai envie de dire, dans le monde académique. Je ne veux pas mettre une école parmi tant d'autres, mais dans le monde académique, les écoles de design, elles ont une place centrale, parce que c'est elles qui nous permettent de mieux comprendre comment on va utiliser nos territoires.
Alors c'est rigolo, parce que le projet que j'ai évoqué tout à l'heure sur le One Health, donc la santé globale, je vais bien le dire. Et ben typiquement, effectivement, il y a un gros travail avec des écoles du design, mais on en a d'autres. Il y a beaucoup de cabinets, enfin de chercheurs en prospective qui les mobilisent. Et je trouve qu'effectivement, c'est très intéressant, puis c'est très rigolo parce qu'ils apportent des idées complètement nouvelles.
Merci, merci beaucoup à toutes les deux. On se retrouve dans un prochain numéro de Comment vas-tu bien la planète. Et d'ici là, vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes dédiées. À très bientôt.
Hello, salut, comment ça va?
C'était Comment vas-tu bien la planète, saison 3, épisode 2. Aujourd'hui, nous avons évoqué la place du monde académique dans le développement territorial comme catalyseur et comme acteur de la résolution de l'agenda 2030 au travers de la mise en action de l'ODD 17. Un podcast en partenariat avec le RAMO, Laboratoire d'innovation partenariale, et MediaAdvise, la société de production qui met l'audio au service de la planète. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des plateformes de podcasts dédiées. N'hésitez pas à vous abonner, à faire partager autour de vous. À très bientôt. Au revoir.
Hello, salut, comment ça va?